Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et cet après-midi, je vous propose un fantastique voyage dans le temps et dans l'espace pour comprendre qui nous sommes, une plongée dans notre passé pour mieux comprendre notre présent et se projeter dans l'avenir. Cette histoire, c'est celle de l'odyssée humaine, l'odyssée de nos gènes, qui débute avec nos cousins disparus, comme l'homme de Néandertal ou de Denisova, jusqu'à l'Homo sapiens et ses descendants partout dans le monde. Vous verrez que nous sommes tous cousins et que nous partageons beaucoup plus d'ancêtres communs que vous ne le croyez. Barack Obama et Donald Trump partagent bel et bien la même lignée, et que cela nous plaise ou non, nous sommes les ancêtres de migrants, ce qui a permis aux populations de se mélanger, un avantage décisif dans l'histoire de l'évolution. Dans cette perspective, nous verrons comment il est possible d'être raciste quand on sait que nous sommes tous cousins avec un berceau commun, le continent africain. Pour nous éclairer cet après-midi, la professeure en anthropologie génétique, Evelyne Hier. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.
Et si vos grands-parents sont nés en France, il y a de fortes chances, très fortes chances que vous descendiez de Charlemagne, ou presque, et vous comprendrez pourquoi avec notre invité. Bonjour Evelyne Hier.
Bonjour.
Vous êtes professeure en anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Dans vos recherches, vous essayez d'évaluer l'effet de la culture sur notre évolution génétique, et vous publiez chez Flammarion un livre absolument passionnant, l'Odyssée des gènes. Pouvez-vous nous dire peut-être en quelques mots ce qu'est l'anthropologie génétique?
Alors l'anthropologie génétique, c'est l'étude de l'évolution et de la diversité des hommes, diversité tant biologique que culturelle, en utilisant comme outil l'ADN qui nous renseigne énormément sur qui nous sommes et d'où nous venons.
Alors ce que vous montrez admirablement bien dans votre livre, c'est que les mélanges de populations ont été bénéfiques et que ces mélanges ont même été essentiels à notre survie.
Oui, en fait, on voit dans notre génome, on voit des mélanges entre les populations humaines actuelles, mais on voit aussi des mélanges avec des espèces qui ont disparu, comme Néandertal et Denisova. Et par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est que les populations du Tibet, adaptées à l'altitude, ont reçu le gène qui leur permet cette adaptation de Denisova, qui est une espèce qui est disparue à l'heure actuelle, je dirais un cousin dans l'immense buisson de la lignée humaine.
Alors les gènes sont un livre d'histoire, une machine à remonter le temps. Grâce à la génétique, vous parvenez à explorer la mémoire de notre passé, là où aucune archive n'est disponible. Alors l'idée que l'ADN puisse être une machine à remonter le temps, ça peut laisser perplexes certains d'entre nous.
Oui, alors en fait, il faut comprendre, c'est très simple, on reçoit la moitié de son ADN de son papa, l'autre moitié de sa maman, et eux-mêmes l'ont reçu la moitié de leur père et de leur mère, etc., etc. Donc, finalement, on reçoit des bouts d'ADN de nos ancêtres. Et en fouillant dans le génome, on arrive à retrouver ces bouts d'ADN qu'on a reçus d'ancêtres dans le passé, et en comparant les individus ou les populations, on voit s'ils sont proches, s'ils sont différents, s'il y a eu des migrations entre ces populations ou pas. Donc, c'est comme si votre ADN actuel, c'était une mosaïque de tous les bouts d'ADN que vous avez reçus de vos ancêtres. Et c'est ça qu'on analyse.
Et nous sommes tous le fruit d'une espèce qui foulait le sol africain il y a environ 7 millions d'années.
Oui. Alors on sépare, en fait, notre lignée va se séparer de celle qui va devenir chimpanzé bonobo. On estime il y a environ 7 millions d'années. Le gros de l'évolution de notre espèce se fait en Afrique, et notre espèce sapiens émerge en Afrique il y a 200 à 300 000 ans, et on va commencer à sortir d'Afrique pour coloniser toute la planète il y a environ 70 000 ans. Donc en fait, il y a très peu de temps. Pour l'essentiel, nous sommes une espèce africaine.
Alors l'une des grandes questions que vous posez dans votre livre, c'est comment l'intégralité des 7,5 milliards d'individus de la population humaine peuvent-ils descendre de quelques populations préhistoriques vivant en Afrique?
C'est fascinant, parce que finalement, maintenant, notre espèce, elle est partout. Et en ça, on est spécifique, parce que nos cousins les plus proches, les chimpanzés ou les bonobos, eux, quelque part, ils sont restés en Afrique. Et nous, notre espèce, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, on est parti se répandre sur toute la planète. Moi, je pense que c'est plutôt de la curiosité, c'est-à-dire, depuis les temps très anciens, matin, on a cette envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline et de se déplacer. Alors, faut bien raisonner, c'est des déplacements petit à petit. Hein. En moyenne, ça fait quelques kilomètres par génération.
3 kilomètres en moyenne.
C'est ça, c'est pas un individu qui est parti d'Afrique avec son sac à dos jusqu'en Australie. Non, ça a pris des milliers d'années, ça s'est fait petit à petit, mais on a visiblement toujours eu un peu cette envie d'aller voir un peu plus loin, d'aller voir autre part.
Alors, nous appartenons à l'ordre des primates, et nos plus proches cousins, vous l'avez dit, sont les chimpanzés et les bonobos. Les gorilles et les orang-outans sont un peu plus éloignés. Chose très importante, hein, un chimpanzé est plus proche d'un être humain que d'un gorille.
Alors ça fait partie des choses que j'aime bien présenter, notamment aux plus jeunes, parce qu'on a toujours dans cette idée que quelque part, le chimpanzé et le gorille sont plus proches entre eux, mais non, le chimpanzé, son plus proche cousin, c'est l'humain, c'est pas le gorille.
Comment s'opère une mutation génétique qui fait que l'on s'éloigne du chimpanzé pour aller vers l'être humain?
Alors, les mutations...
C'est le fruit du hasard?
Oui, les mutations apparaissent au hasard. Alors, la plupart des mutations, elles changent rien, donc elles vivent leur vie tranquille, elles disparaissent ou on ne sait pas. Et il y a des mutations qui sont dites délétères, c'est-à-dire elles ne sont pas bonnes, elles sont éliminées. C'est-à-dire les individus qui les portent ne se reproduisent pas ou ne survivent pas bien. Et il y a quelques très rares mutations qui, entre guillemets, sont avantageuses et qui vont se répandre dans toutes les populations, voire dans toute l'espèce. Et on peut comparer comme ça le génome du chimpanzé et le génome d'un humain actuel et voir quelles sont des mutations qui ont pu être avantageuses dans notre lignée par rapport à celle des chimpanzés. C'est encore des choses qui sont en train d'être fouillées. Il y a des pistes sur des mutations impliquées dans la morphologie, dans le squelette, la forme, la peau, l'odorat, etc.
Pourquoi votre odyssée des gènes intéresse notre quotidien ?
Eh ben, je pense que ça l'intéresse parce que dans notre société, on est de plus en plus face à de la diversité, à des gens qui viennent de partout dans le monde. Il y a de la montée, on dirait, de culture identitaire, voire de racisme. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on est tous cousins et surtout qu'on a tous des ancêtres migrants dans nos généalogies.
Alors, les premiers sapiens vivaient en Afrique, mais il n'existe pas de lieu unique en Afrique à l'émergence de notre espèce. Hein.
Alors ça fait partie des grandes nouveautés, je dirais, depuis une dizaine d'années. Mmh. Avant, on pensait qu'il y avait un endroit où notre espèce était apparue en Afrique, et on se rend compte maintenant que non. Il y a des restes anciens des premiers sapiens, autant au Maroc qu'en Afrique de l'Est, qu'en Afrique du Sud. Donc on pense que c'est des petites populations qui ont échangé entre elles et qu'il n'y a pas un lieu, un berceau.
Et est-ce que l'émergence de notre espèce en Afrique est aujourd'hui indiscutable ?
Oui. C'est indiscutable. Alors là, ça fait 10 ans que ça a été prouvé, reprouvé dans tous les sens. Il n'y a pas photo, on vient vraiment tous d'Afrique.
D'ailleurs, pourquoi Homo sapiens a-t-il quitté l'Afrique ? Qu'est-ce qui lui a pris il y a environ 70 000 ans ?
Alors, on peut exclure plein de choses. Il n'y avait pas de problème d'alimentation. Il y a des gens qui ont essayé de trouver des éruptions volcaniques, ça marche pas. Il n'y a pas de raison. Je pense que on a eu une espèce de curiosité. On a voulu aller voir un peu plus loin. Ou alors, on s'est déplacé sans s'en rendre compte, peut-être tout simplement.
Alors, quand Sapiens sort d'Afrique, l'Eurasie n'est pas vide de population humaine. Hein. Il faut rappeler qu'il existait ailleurs d'autres espèces humaines, comme l'homme de Néandertal ou de Denisova. À quoi ressemblait Néandertal ?
Alors, Néandertal, il est trapu. Il a le crâne en forme de ballon de rugby, alors que le nôtre est plutôt en forme de ballon de foot. Surtout, il n'a pas de menton et il a un gros bourrelet au-dessus des yeux. Et donc lui, il est descendant d'une sortie d'Afrique plus ancienne qui date d'il y a environ 600 000 ans.
Il vient d'Afrique lui aussi ?
Ah bah oui, on vient tous d'Afrique.
Sommes-nous génétiquement différents de Néandertal ? Est-ce que nous possédons en nous du Néandertal ?
Ah oui, alors là, c'est les résultats extraordinaires depuis 10 ans. Avec l'étude des génomes, on a pu se rendre compte que quand Sapiens sort d'Afrique, il rencontre Néandertal et il se croisent. C'est la manière polie de dire qu'ils ont eu des rapports charnels réussis.
C'est joliment dit.
Oui. Et donc, on a tous récupéré des petits bouts de génome de Néandertal. Tous les gens qui ont des ancêtres hors d'Afrique ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal.
Alors, Sapiens a également rencontré une autre espèce, l'homme de Denisova. Qui était-il ?
Alors, l'homme de Denisova, c'est le petit cousin de Néandertal plus à l'est. Et alors, on connaît très peu de choses sur lui, on l'a trouvé que par son ADN. Donc on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas quel outil il faisait. Et quand Sapiens va vers l'Est, donc vers l'Australie, la Papouasie, l'Asie, etc., eh ben, les populations Sapiens se croisent aussi avec l'homme de Denisova.
Et on retrouve du génome de ce Denisovien dans les populations donc d'Asie du Sud-Est et d'Océanie?
Oui, et c'est bizarre parce que le seul Denisova qu'on a trouvé, il est plutôt en Asie du Nord, en Sibérie, en Altaï ou au Tibet. Mais visiblement, il devait vivre aussi en Asie du Sud-Est parce que les populations qui sont allées vers l'Océanie et l'Australie se sont bien mélangées avec lui.
Et les populations tibétaines lui doivent la mutation, une mutation génétique qui lui permette de vivre facilement en altitude.
C'est incroyable. Et c'est là, c'est le plus bel exemple qui montre l'intérêt des croisements et en quoi ces croisements ont permis des adaptations.
Et qui était l'homme de Flores, exhumé en Indonésie il y a environ 50 000 ans? Il ressemblait à quoi, lui?
Alors, l'homme de Flores, il est tout petit. Il mesure pas plus d'un mètre, à tel point qu'on l'a appelé le hobbit de la préhistoire, ce qui est assez marrant. Mais on sait souvent que quand on vit sur une île, on peut avoir une réduction de taille. Par exemple, il y avait des hippopotames nains sur les îles en méditerranéenne. Et donc, il y a eu une évolution sur place et il est devenu plus petit sur place, mais on n'a pas pu faire son ADN. Donc, on connaît moins son rattachement à tout le buisson humain.
Il reste quelque chose de l'homme de Flores en nous?
Les tests qui ont été faits, non. On n'a rien trouvé qui correspondait à des mélanges avec l'homme de Flores.
L'homme moderne est donc né à quelle date?
Alors, on devient moderne, on considère à l'émergence de Sapiens, il y a environ 300 000 ans. Mmh. Et maintenant, le temps de commencer à retrouver vraiment des objets symboliques, des sépultures, ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs, aujourd'hui vient d'être publiée la plus ancienne sépulture humaine qui date d'environ 75 000 ans au Kenya.
Rappelons, c'est important de le dire, que les mutations génétiques sont arrivées par hasard et par sélection naturelle. Rappelez-nous ce qu'est la sélection naturelle et les malentendus qui peut y avoir autour de cette notion très importante.
Alors la sélection naturelle, c'est en fait que quand vous portez certaines mutations, vous êtes avantagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous survivez mieux ou vous vous reproduisez mieux. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, bah forcément vous allez avoir plus de descendants. Et donc, votre mutation qui vous a avantagé, elle va être plus transmise par rapport à d'autres qui la portent pas. Et au fil des générations, petit à petit, du coup, la mutation avantageuse va se répandre dans la population par sélection naturelle.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous verrez pourquoi nous sommes tous cousins, que nous habitions l'Australie, les Amériques, la Sibérie, la Scandinavie, la Chine ou encore le Congo. En attendant, on écoute les Surfs. Scandale dans la famille.
Wow. La mère se mit à rire et lui dit: t'en fais pas, ton
Les sœurs ont interprété Scandale dans la famille.
Il paraît que Dieu, il a dit...
Grand bien vous fasse.
Il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on vous explique pourquoi nous sommes tous cousins en compagnie de l'anthropologue généticienne Evelyne Heyer.
Le plus vieil ancêtre de l'homme connu à ce jour est daté d'environ 7 millions d'années. Il s'agit du dénommé Toumaï. Entre moins 4 et moins 3 millions d'années, la branche qui va engendrer les hommes va se séparer en deux. D'un côté, les Australopithèques, de l'autre, la branche des hommes. La fameuse Lucie se trouve sur la branche des Australopithèques. Par conséquent, ce n'est pas l'ancêtre de l'homme, c'est une cousine très éloignée. Sur la branche de l'homme, on trouve Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, qui sont tous des ancêtres d'Homo sapiens, donc vos ancêtres. L'homme de Néandertal se trouve lui aussi sur cette branche, mais ce n'est pas un de nos ancêtres. Avec lui, nous avons un ancêtre commun, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Quant aux bonobos, aux chimpanzés, aux gorilles, eh bien, ils se trouvent sur d'autres branches, les branches qui ont bifurqué il y a très très longtemps. Quand exactement? On ne le sait pas. Était-ce avant ou après Toumaï? En tout cas, ce ne sont pas nos ancêtres. Là encore, ce sont de très lointains cousins.
Ce cher Jamy Gourmaud dans C'est pas sorcier, toujours aussi pédagogue. Evelyne Heyer, comment Homo sapiens est-il arrivé en Europe?
Alors, de ce qu'on sait à l'heure actuelle, donc quand Homo sapiens sort d'Afrique, déjà il va au Moyen-Orient où il va rester assez longtemps, parce qu'il sort d'Afrique il y a 70 000 ans, et il reste au Moyen-Orient et arrive en Europe, ça a été trouvé il y a pas longtemps, il y a 46 000 ans. Le plus ancien sapiens européen date d'environ 46 000 ans. Alors moi, là, ce que je vous dis, c'est le point de vue de la généticienne, c'est-à-dire c'est ceux qui sont arrivés dont on a des descendants jusqu'à nos jours. Il y a peut-être eu des sapiens qui sont arrivés avant, mais eux, ils n'ont pas eu de succès reproducteur, ils n'ont pas transmis leurs gènes jusqu'à nous.
Alors, à quoi ressemblaient les premiers Européens? Quelle était, par exemple, leur morphologie, leur couleur de peau, la couleur de leurs yeux?
Alors, c'est très marrant parce que l'ADN extrait de ces fossiles a permis de révéler que normalement, d'après ce qu'on sait, ils étaient noirs de couleur de peau. Et donc, les premiers Européens restent noirs très longtemps, de 46 000 à 10 000 ans. Un Européen normal et noir de couleur de peau, et même un grand nombre ont les yeux bleus, noirs aux yeux bleus.
Noirs aux yeux bleus, donc quand on représente ces hommes-là dans la guerre du feu, c'est pas très juste, on se trompe.
Oui, mais on le savait pas à cette époque-là.
On savait pas, évidemment. Voilà. Et ce sont les recherches du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui ont donc découvert que les Européens avaient donc cette peau foncée et les yeux bleus. Et comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat alors?
Ah, alors on a regardé les populations actuelles en fonction de leur couleur de peau, et du coup on trouve les petites mutations dans le génome qui expliquent les différences de couleur de peau. Donc on connaît ce qu'il faut regarder dans l'ADN, et là on arrive avec les techniques dites de paléogénétique à extraire l'ADN des premiers Européens ou d'Européens anciens, et on regarde dans leur ADN s'ils portent plutôt la mutation qui fait plutôt des couleurs de peau foncées ou la mutation qui fait plutôt des couleurs de peau claires. Et on a trouvé que jusqu'à il y a 10 000 ans, la plupart des Européens qu'on a analysés avaient donc une couleur de peau foncée parce qu'ils portaient la mutation qui fait des couleurs de peau plus foncées.
Et qu'est-ce que vous répondez quand un Européen blanc de peau, blond, aux yeux bleus, vous dit « je suis arien, je suis d'ascendance arienne ». Qu'est-ce que vous répondez à ce type de personne?
D'abord, je rigole. Et après, je lui dis, je suis désolée, mais si t'es entre guillemets européen de souche, et ben tes ancêtres, ils sont noirs, quoi.
Alors, les premiers sapiens en Europe avaient donc la peau foncée. Ces premiers sapiens ont rencontré donc des environnements moins ensoleillés. Pourquoi leur peau est-elle devenue plus claire?
Alors, la peau, on a besoin d'une peau plus claire, entre guillemets, quand on a un environnement où on n'a pas beaucoup de vitamine D, parce que dans ce cas-là, il est important d'avoir une peau claire pour synthétiser la vitamine D. Et donc, au début, les premiers sapiens européens, ils avaient beaucoup de vitamine D dans leur alimentation. Donc, entre guillemets, ils n'avaient pas besoin d'une couleur de peau plus claire. Et on change d'alimentation il y a environ 10 000 ans avec l'arrivée de l'agriculture. Et là, on a moins de vitamine D dans notre alimentation. Et du coup, ça devient important d'avoir une peau plus claire. Et là, il y a une sélection forte pour une peau plus claire qui se met en place. À cela s'ajoute le fait que des populations viennent du Moyen-Orient en Europe et elles-mêmes sont de couleur de peau plus claire. Donc on est devenu plus clair à la fois par sélection sur place et par l'arrivée de migrants du Moyen-Orient.
Dans ce sens, Maude nous demande comment expliquer la grande diversité de couleurs de peau et de morphologie travers le monde alors que nous venons tous d'Afrique.
Eh ben, c'est des adaptations, c'est ça. On s'adapte localement à des environnements différents. Par exemple, on sait que dans les zones plus froides, il vaut mieux être plus petit et trapu pour mieux conserver la chaleur. Dans les environnements très secs, il vaut mieux être grand et longiligne pour pouvoir éliminer la chaleur par les membres assez longs. Donc ça, c'est les phénomènes de sélection qui se font dans des environnements différents. Ça prend du temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain.
Et quel a été le rôle de l'alimentation ?
Ben, l'alimentation, par exemple, ça a joué dans cette histoire de couleur de peau. On pense que c'est un facteur qui a joué dans le fait qu'on ait eu besoin d'une couleur de peau plus claire dans les endroits où il y avait moins de soleil.
Alors, les peuples amérindiens, les aborigènes, descendent tous de sapiens, dont le berceau est donc en Afrique. Mais comment est-ce possible ? Parce que beaucoup de gens n'imaginent pas que les aborigènes ou les Amérindiens descendent d'Afrique. Comment est-ce possible ?
Eh ben, il faut imaginer en Afrique. Donc, il y a Sapiens qui est là depuis plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Et petit à petit, il sort. Et donc, la première colonisation qu'il va faire, c'est en restant dans une zone tropicale, parce qu'on est plutôt un animal tropical, il va aller le long des côtes jusqu'en Australie. Première colonisation. Un peu plus tard, il va en Asie continentale et plus tardivement, il y a seulement 20 000 ans, il va traverser ce qu'on appelle le détroit de Bering, l'endroit où l'Asie et l'Amérique se rencontrent tout au nord vers l'Alaska. Et petit à petit, il va coloniser comme ça toute l'Amérique du nord vers le sud.
Alors, les aborigènes d'Australie ont la peau foncée, les cheveux crépus et ressemblent donc beaucoup à la population noire du continent africain. C'est une mèche de cheveux qui a permis de résoudre ce mystère, parce qu'on s'est longtemps posé la question. Que nous a appris cet ADN des cheveux d'aborigènes d'Australie ?
Eh ben, en arrivant à extraire l'ADN de cheveux d'Australie, c'est une équipe au Danemark qui a réussi cet exploit, parce que c'est pas évident, on a pu montrer que effectivement, les Australiens descendent des Africains, ils sont issus de la même sortie d'Afrique.
Il n'y a pas eu deux sorties d'Afrique,
il n'y en a eu qu'une. Quoi. Et ça, c'est important, parce qu'il y a eu un moment, un doute, on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas eu deux sorties ? Une sortie plus ancienne, ou qui serait allée jusqu'en Australie, et une plus récente, après, qui aurait colonisé l'Europe et l'Asie. Et grâce à cette étude, il a pu être démontré qu'il n'y a eu qu'une sortie d'Afrique.
Alors, Evelyne Ayer, vous adorez l'Asie centrale, parce que c'est l'un des lieux dans le monde qui connaît le plus de diversité de population. Comment on explique cette diversité de population en Asie centrale ?
Ah ben, en Asie centrale, c'est surtout des mouvements de population. D'abord, c'est un endroit où l'Homo sapiens a vécu depuis très longtemps, parce qu'on trouve même avant Sapiens des Néandertaliens et on trouve des très anciens Sapiens, donc nos ancêtres. Et c'est une zone de carrefour où on a à la fois rencontre de populations plutôt européennes, plutôt d'Iran et plutôt d'Asie. Et ça crée une diversité absolument incroyable.
D'où provenaient les premiers Américains
Ah, les premiers Américains, justement, ils venaient plutôt du sud de la Sibérie. Mmh. Et je me souviens, quand j'ai été là-bas, que j'ai expliqué à un maire d'un village pour qu'il nous donne l'autorisation de travailler dans son village, je lui ai dit, mais vous savez, on va retrouver peut-être dans votre ADN que vos ancêtres ont colonisé l'Amérique. Alors lui, donc, il est en Sibérie, donc en Russie, très fier de savoir que finalement, ce sont les Russes qui ont conquis l'Amérique.
C'était il y a 20 000 ou 15 000 ans avant notre ère, c'est ça ?
C'est ça, il y a 15-20 000 ans, avec des fourchettes qui sont sans arrêt réactualisées.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un événement majeur. Il y a 10 000 ans, au Néolithique, l'homme commence à domestiquer la nature. Le chasseur-cueilleur devient un agriculteur-éleveur. Et cette révolution néolithique a eu un impact formidable sur nos gènes. Hein.
Oui, alors ça a un impact sur nos gènes pour plein de raisons. Déjà, d'un seul coup, on commence à faire une grande croissance démographique. Donc c'est le moment où notre espèce devient, on va dire, un peu invasive et a cette démographie galopante. Mais surtout, ça a sélectionné cette nouvelle alimentation, certains gènes qui sont adaptés à cette nouvelle alimentation. Le plus connu, c'est une mutation qui permet de digérer le lait quand on est adulte. Normalement, comme tous les mammifères, on ne digère pas le lait quand on est adulte. Le veau boit du lait, mais pas la vache, quoi. Mmh. Et il y a des mutations dans des populations humaines qui permettent aux adultes de digérer le lait. Et ça, c'est lié au changement d'alimentation qu'il y a eu au moment du néolithique, voire après, quand on s'est mis à élever des animaux et à en boire le lait.
Sur la tolérance au lactose, on retrouve cette tolérance chez quel peuple du monde ?
Alors, on le retrouve au nord de l'Europe, on le retrouve dans différentes ethnies en Afrique.
Les Touaregs, par exemple.
Par exemple. On le retrouve au Moyen-Orient, mais alors de manière surprenante, on le retrouve pas du tout en Mongolie, en Asie centrale, alors qu'ils boivent beaucoup de lait.
Alors, ce qui est vertigineux, Evelyne Ayer, c'est que nous avons parmi nos ancêtres un cultivateur de riz chinois, un Sibérien éleveur de rennes, ou encore un Africain chasseur d'éléphants. Bien évidemment, tous ces ancêtres n'ont pas le même poids dans notre arbre généalogique. Vous le dites bien dans votre livre, nous sommes donc tous semblables et tous différents à la fois.
C'est ça. À la fois, on peut montrer qu'on a tous les mêmes ancêtres il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans selon l'échelle géographique où on se place, mais chaque ancêtre ne contribue pas de la même manière. C'est-à-dire, moi, je vais avoir un ancêtre d'il y a 5000 ans 50 fois dans ma généalogie, et vous allez l'avoir peut-être 2000 fois dans votre généalogie. Et en plus, ils nous ont pas tous transmis les mêmes bouts d'ADN. Parce qu'il y a le hasard. À chaque fois, vous transmettez que la moitié de votre ADN à vos enfants. Donc au fil des générations, vous avez des ancêtres qui vous ont rien transmis, d'autres qui vous ont transmis certains bouts, et pas forcément les mêmes d'un individu à l'autre.
Alors vous allez nous expliquer, à ce stade de l'émission, pourquoi notre réalisatrice Stéphanie Texier, notre technicienne Pauline Laverdure, à la console, ont un ancêtre commun, Charlemagne.
Ah ouais, alors ça c'est très rigolo. En fait, si vous prenez un individu en France à l'heure actuelle, il a deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc. Charlemagne, il vivait il y a environ 40 générations, il y a 1200 ans. Donc si tous nos ancêtres étaient différents, ça veut dire qu'en France, à cette époque-là, il y aurait eu environ 1000 milliards d'individus. C'est pas vrai. À cette époque-là, il y avait seulement même pas 10 millions d'habitants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous nos ancêtres se retrouvent plein de fois dans nos généalogies et sont tous communs d'un individu à un autre. À tel point qu'il y a environ 2000 ans, quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans en Europe, s'il a un descendant jusqu'à nos jours, eh ben il est l'ancêtre de tous les autres Européens. Donc si quelqu'un fait sa généalogie et vous dit « mon ancêtre c'est Charlemagne », vous pouvez dire « ah ben moi aussi
». Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas, e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Meu amor não tem perfume. Artifício, não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estrelas. estações de trem. Passa o inverno, passa o verão, mas você não vê.
Dom la Nena, interprété Bejo Passar.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, on vous explique pourquoi nous sommes tous cousins en compagnie de l'anthropologue généticienne Evelyne Heyer.
Votre ADN est un livre ouvert sur le passé. Notre génome étant un héritage, son analyse permet d'identifier l'origine de nos ancêtres. C'est cet aspect de la généalogie génétique qui a plu à Aurore, cette Française de 29 ans, vit à Montréal.
Étant réunionnaise, j'ai des origines variées et j'avais souhaité remonter le plus loin possible. Malheureusement, malgré les informations dont on peut disposer dans les mairies ou sur Internet, c'est très difficile de remonter au-delà du 18e voire du 17e siècle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce test ADN.
Elle commande un kit sur Internet, envoie un échantillon de salive en Irlande et 6 semaines plus tard, reçoit les résultats.
J'ai donc appris que j'étais 72% européenne, dont 31% Grande-Bretagne et 20% Ibérie, 13% africaine, dont Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud, 9% asiatique, dont l'Inde et l'Asie de l'Est. Donc le test m'a vraiment permis d'aller plus loin en termes de recherche et de remonter jusqu'à 500 ans avant.
Extrait du 12h45 d'M6 diffusé le 6 août 2018. Nous sommes donc de plus en plus nombreux à faire des tests d'origine, des tests récréatifs, des tests théoriquement interdits en France, hein, Evelyne Heyer.
Oui, pour l'instant.
Comment expliquez-vous cette passion pour la recherche de ses origines ?
Ah bah, je pense que tout le monde a envie de savoir d'où il vient. C'est quelque chose qui m'a fascinée. Moi, j'ai eu la chance de parcourir le monde. Et partout dans le monde, quand on parle aux gens en leur disant « avec votre ADN, on va pouvoir retracer d'où vous venez, votre histoire, etc. », ça fascine tout le monde.
Question d'André du Havre. Bienvenue, André.
Oui, bonjour. Bonjour, France Inter.
Bonjour.
Bonjour, madame. C'est passionnant ce que vous dites. Passionnant.
Merci.
Et le livre est passionnant.
Oui, voilà, je voulais vous poser la question parce qu'on voit ça un petit peu partout. Je sais qu'il paraît qu'on peut faire son ADN ethnique. Je parle pas l'ADN parental, hein, puisque c'est interdit par la loi. Mais est-ce que c'est véritablement fiable? Parce que, évidemment, il y a eu tellement de changements de population, tellement de mouvements de population depuis des millénaires. Est-ce que c'est fiable?
Je crois qu'André fait référence au test récréatif dont on vient de parler.
Oui, c'est ça, le récréatif. Parce que le vrai.
Bon, alors je vais vous expliquer. En fait, faut voir votre ADN comme plein de petits bouts. Et en fait, le principe de ces tests, c'est de comparer un peu vos bouts d'ADN à différentes populations qu'on dit des populations de référence. Et donc, on dit, bon, ben, il y a 2% de vos bouts qui sont plutôt proches de cette population de référence ou plutôt d'une autre. Donc, la validité du test dépend des populations de référence que vous avez. Alors, à l'échelle globale de la planète, comme l'exemple de la personne de l'île de la Réunion, entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, je pense que c'est bon, vous n'avez pas trop de soucis. Par contre, si vous allez plus dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Parce que, par exemple, on ne sait pas, comme population de référence, dans les compagnies, qu'est-ce qu'elles vont avoir, par exemple, pour les Français. Or, si, par exemple, vos ancêtres sont du nord de la France et que leur population de référence, c'est des gens de Nice, on ne va pas vous trouver proche des Français, mais plutôt proche des Belges. Donc, on va vous dire que vous avez 20% de votre génome belge, alors qu'en fait, vos ancêtres sont peut-être du nord de la France. Donc je dirais qu'à une échelle générale, c'est bon, mais qu'à des échelles plus précises, comme la définition des populations de référence est un peu floue, je ne lui accorderai pas trop de validité. En gros, vous saurez si vous avez des ancêtres européens, africains, asiatiques, mais quant à savoir s'ils sont, je dirais, espagnols ou portugais, s'ils sont français ou italiens, je les croirais un peu moins.
Et vous, André, vous êtes tenté par ce type de test ?
Oui, bah c'est ce que disait madame. On est curieux de savoir d'où on vient.
Bah moi je trouve ça sympa, hein, franchement.
Et oui, absolument. Et puis ça abat certains préjugés déjà au départ.
Ah bah oui, tous les gens, on voit les scoops sur Internet des gens qui se rendent compte que finalement, ils viennent pas de là où ils croient, où c'est mélangé. Il y a l'exemple d'un suprémaciste blanc aux États-Unis qui a découvert qu'il y avait 10% de son génome qui venait d'Afrique. C'est marrant.
Et que vous nous disiez qu'à l'origine, les hommes étaient noirs.
Exactement.
Voilà. Oui.
Absolument. Ça casse pas mal de choses.
Et la science le prouve. Et scoop, oui. André, nous sommes cousins. Je vous appelle cousin, André. Merci beaucoup.
Mais l'humanité est une grande famille, il ne faut pas l'oublier. Et elle l'oublie trop souvent, de toute façon.
Exactement. Merci beaucoup d'être intervenu, André. Allez, dans quelques instants, on se demande comment on peut être raciste alors que nous sommes tous cousins. Nous recevons l'anthropologue généticienne Evelyne Heyer qui publie L'Odyssée des gènes. Patrick qui nous dit, c'est quand même super sympa de savoir que nous sommes tous cousins. On l'oublie vite alors qu'on devrait s'en souvenir plus souvent. Il y a aussi une question de Gilles qui nous demande, est-ce qu'il existe encore en Afrique des populations qui ne se sont pas croisées avec les autres espèces humaines comme Néandertal?
Alors, ça fait partie des grandes questions. Et effectivement, en regardant l'ADN actuel de populations africaines, il y a certains laboratoires qui ont vu qu'il y aurait eu des mélanges avec des espèces plus anciennes. Alors, pas Néandertal, mais d'autres un peu équivalentes. Il y a d'autres labos qui disent non, c'est pas forcément exact. Donc, ça fait partie, je dirais, de questions de science en marche. Maintenant, les Africains ont reçu aussi un peu de génome néandertal, parce que Sapiens, il sort d'Afrique, mais il revient. Hein. En général, il n'y a pas de sens interdit. Hein. Donc, ceux qui sont revenus d'Europe et d'Asie, comme ils avaient un peu de génome néandertal, ils en ont ramené un peu en Afrique. Mais c'est vrai, moins que ce qu'on trouve en Europe et en Asie. Mais peut-être qu'en Afrique, il y a eu des mélanges avec d'autres espèces, on ne sait pas encore lesquelles.
Thierry de Saint-Germain-en-Laye nous demande comment les yeux bleus peuvent-ils perdurer alors que les yeux noirs sont dominants et prennent plus d'importance.
Alors, en fait, les yeux bleus, on pense que c'est un avantage lié à ce qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire le fait que si vous êtes préféré parce qu'on vous trouve plus beau, vous avez plus facilement de partenaires, vous vous reproduisez mieux et vous transmettez mieux vos gènes. Et donc, on pense que les yeux bleus se sont répandus dans le nord de l'Europe pour cette raison.
Et vous faites une analogie avec le paon.
Ah oui, c'est ça. Ben, c'est de la même manière que les femelles paons aiment bien les paons qui ont des très belles plumes. Et ben, chez les humains, pareil, il y a eu visiblement dans notre espèce à un moment où il y avait des gens qui aimaient beaucoup les yeux bleus. Et donc, les yeux bleus se sont répandus, mais c'est vrai que c'est récessif, c'est-à-dire il faut recevoir la partie yeux bleus à la fois par le père et par la mère. Bon, attention, hein, il y a toujours des mutations, c'est jamais si simple, mais grosso modo. Et effectivement, si vous avez des gens qui ont les yeux bleus qui se mélangent avec des gens qui ont les yeux marrons, en général, les descendants ont des yeux marrons. Donc, on a l'impression que ça disparaît. Mais le gène est toujours là. Donc, ça n'empêche pas qu'il peut réapparaître plus tard ou lors d'autres croisements. Il est caché, mais il est là.
Bonjour Jacqueline, bienvenue.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Alors moi, je suis contente de savoir que nous sommes tous cousins. Mais néanmoins, je voudrais savoir si sur une échelle de temps longue, mais vers l'avenir, on deviendra tous blancs ou tous noirs, ou au contraire mélanger comme aujourd'hui, ce qui est aussi une belle chose. Mais comment on va évoluer?
Vous faites de la prospective
en fonction des conditions climatiques peut-être, ou des modifications dans notre alimentation.
Alors, je dirais que tout ce qui est conditions climatiques et réponse à l'alimentation, maintenant, comme on a des médicaments, on a des supplémentations, vitamine D, tout ça, ça va pas jouer. Par contre, ce qui va jouer, ce sont les mélanges. À l'heure actuelle, ce qu'il y a de nouveau, c'est pas qu'on se mélange, on s'est toujours mélangé. Mais c'est qu'on mélange des gens qui viennent d'endroits beaucoup plus éloignés géographiquement qu'avant. Et du coup, qui ont des apparences, on dit des phénotypes très différents. Et quand ils se mélangent, ça rebrasse tout le génome et ça fait apparaître des nouveaux, on dit phénotypes. Par exemple, moi, j'ai vu à San Francisco un individu qui avait clairement un visage asiatique et qui avait une couleur de peau noire avec les yeux bleus. Vous imaginez de rajouter au mélange des cheveux roux et vous allez voir qu'on va voir apparaître des choses assez marrantes dans les générations à venir.
Rappelez-nous ce qu'est le phénotype.
Le phénotype, c'est votre apparence.
Merci beaucoup, Jacqueline, de nous avoir appelés.
Revenu dans ma ville, familière jusqu'aux sanglots, jusqu'aux ganglions de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau. Tu es de retour, avale donc d'un trait l'huile de foie de morue des lanternes de Leningrad sur les quais. Le petit jour de décembre, reconnais-le bien vite, au jaune d'œuf dissous dans le goudron sinistre. j'ai les adresses d'autrefois, je reconnais les morts à leur voix. À leur voix. J'habite l'escalier de service. Et la sonnette arrachée à la chair teinte dans ma tête. Et toute la nuit jusqu'à l'aube, j'attends les os de chair et les chaînettes de la porte cliquettent comme des fers sur les quais. Tu as les numéros, j'ai les adresses d'autrefois. Je reconnais les morts à leur voix. Je ne veux pas encore mourir de mes téléphones. Tu as les numéros, j'ai les adresses d'autrefois. Je reconnais les morts à leur voix. Je suis revenu dans ma ville.
Raphaël interprété Je suis revenu.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et cet après-midi, on vous explique pourquoi nous sommes tous cousins en compagnie de l'anthropologue généticienne Evelyne Heyer.
Il s'agit d'une guerre silencieuse contre la race blanche. Richard Spencer fait le tour des universités avec cette idée que la race blanche est menacée. Et parfois, il n'hésite pas à solliciter le salut hitlérien. Gloire à Trump, gloire aux Blancs et à notre victoire. Il considère l'arrivée de Donald Trump comme un nouveau départ. Dans cette université du Michigan, il développe l'idée que le président américain a ouvert une porte vers des idées radicales et ouvertement racistes. Les Blancs sont en train de devenir rapidement une minorité aux États-Unis. Et même si toute cette immigration devait s'arrêter miraculeusement dès demain matin, la nouvelle minorité blanche n'échapperait pas à son destin de s'éteindre en une ou deux décennies.
Extrait du 20h de France 2, le 12 août 2018. Evelyne Heyer, comment peut-on être raciste alors que nous sommes tous cousins? Quand on lit votre livre, le racisme apparaît comme une absurdité. La science est claire, tous les racistes descendent des mêmes ancêtres en Afrique. Un membre du Ku Klux Klan et un Afro-Américain sont génétiquement identiques à 99,99% et ils ont les mêmes ancêtres.
C'est incroyable. C'est vraiment, on dirait, la fake news depuis 200 ans. Un truc complètement incroyable que des gens puissent encore penser qu'en fonction de la couleur de peau ou la religion présupposée, les gens pensent différemment, vivent différemment, soient différents en termes de capacité intellectuelle. Vous vous rendez compte? Il y a des études qui pensent que selon la couleur de peau, on est plus ou moins intelligent. C'est vraiment surprenant comment finalement une idée fausse a pu se répandre et continue à perdurer dans la tête de certains individus. Parce que votre couleur de peau, elle détermine rien en vous. Elle dit pas si vous êtes sympa, pas sympa, intelligent, pas intelligent. Enfin, c'est une grande absurdité.
Mais de votre point de vue de professeur en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à la personne que nous venons d'entendre dans cet extrait?
J'ai envie de lui dire, écoute, toi aussi, t'as des ancêtres noirs, donc t'es peut-être blanc, mais d'abord, ça fait pas longtemps. Et puis ensuite, la couleur de peau ne détermine rien. Enfin, je veux dire, même. Et alors, avant notre espèce, on était tous noirs de peau. Maintenant, il y a des différences de couleur de peau. Après, si on se mélange, il va y en avoir d'autres. Et alors, so what?
Alors, expliquez-nous pourquoi une population fermée s'appauvrit génétiquement. Vous le martelez, la diversité est fondamentale pour la survie d'une population ou d'une espèce.
Tout à fait, c'est dans la diversité génétique qu'on va pouvoir répondre à de la sélection naturelle. Donc, plus vous avez de diversité génétique, plus il arrive quelque chose comme une épidémie, par exemple, vous allez avoir dans votre population des gens qui, coup de bol, ils ont le bon gène. Donc, coup de bol, ils vont pouvoir résister à la nouvelle épidémie, et donc votre population va pouvoir continuer d'exister. Or, une population qui est isolée toute seule, petit à petit, sa diversité génétique s'appauvrit. Et donc, on sait, par exemple, en biologie de la conservation, donc pas pour l'homme, mais pour les autres espèces, qu'une espèce qui s'appauvrit génétiquement, elle a plus de chances de disparaître après. Et donc, la diversité génétique, dont le mélange avec d'autres populations est une force énorme, c'est ça qui va vous amener par migration, par mélange, sans arrêt de la diversité génétique. C'est une assurance pour répondre, je dirais, aux problèmes biologiques auxquels on va être confronté dans le futur.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ceux qui ont horreur, enfin, l'idée même de mélange, ce que vous dites là, qu'est-ce que vous leur répondez, ceux qui ont horreur de cette idée-là de mélange, de diversité?
Je pense que c'est une peur qui est complètement irrationnelle, parce que c'est inentendable d'un point de vue scientifique. Donc là, on est complètement dans l'irrationnel.
Ce qu'on retient à la lecture de notre livre, c'est que notre histoire, cette odyssée humaine, cette odyssée des gènes, c'est quelque part une histoire des migrants,
oui,
et des migrations.
On a tous, dans notre généalogie, des ancêtres migrants. On a aussi des gens qui n'étaient pas migrants, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde bouge. On a des gens qui bougent et d'autres qui ne bougent pas. Et vous pouvez même le dire à l'envers. Un individu qui a des enfants ou des petits-enfants, dans ses descendants, il aura forcément des migrants. Donc on est une espèce, je dirais, dans laquelle la migration est fondamentale.
Petit bémol, et vous le dites dans votre livre, un excès de migration limite les adaptations locales.
Voilà, il faut le bon dosage. C'est-à-dire que, par exemple, au Tibet, s'ils sont adaptés à l'altitude, c'est bien parce qu'il y a des générations qui sont restées en altitude. Donc il y a bien une partie des Tibétains qui sont restés sur place et dont les enfants sont restés sur place et n'ont pas bougé. Néanmoins, il y a toujours eu des migrants qui sont arrivés et des Tibétains qui ont émigré. Donc c'est cette espèce cette articulation qui fait qu'à la fois, on a des petites adaptations locales, mais qui, par migration, vont se répandre de partout.
Au terme de cette émission, qu'apportent les mélanges à notre espèce ?
Les mélanges, c'est fondamental pour l'évolution biologique, mais c'est aussi fondamental pour l'intelligence. On parle d'intelligence collective, on peut parler au niveau de la planète, c'est bien parce qu'il y a plein d'idées qui viennent de partout et qui se mélangent qu'on arrive à résoudre des grandes questions. Si vous regardez par exemple là sur la Covid-19, la vitesse à laquelle on arrivait à trouver des solutions, c'est bien parce qu'il y a des mélanges et puis qu'il y a des gens qui se parlent. Voilà.
Et une dernière question de Lucide Paris. Pourquoi est-ce que l'on est tous les uns contre les autres? Pourquoi est-ce qu'on se combat alors qu'on est tous cousins? Qui pourrait paraître une question de bisounours, mais qui est fondamentale.
Non, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a toujours dans l'espèce humaine un souhait de ressembler à l'intérieur d'un groupe et de se différencier du groupe d'à côté. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, d'inscrit et qui est un moteur de la diversité culturelle. Le problème, c'est quand on passe du fait de vouloir être un peu différent de son voisin à avoir envie de le massacrer.
Merci infiniment Evelyne Heyer d'avoir participé à cette émission. Je recommande la saine lecture de l'Odyssée des gènes et c'est publié chez Flammarion. Demain, comment vivre avec une personnalité difficile en compagnie des psychiatres François Lelore et Christophe André.